Merci d'avoir agréé ce moment de louange et d'adoration, d'avoir eu, Seigneur, une oreille attentive à nos prières, à nos chants, à nos cantiques. Tout cela est monté vers toi, Seigneur, comme du parfum agréable à toi. Tout cela, Seigneur, a été accueilli favorablement parce que nous nous sommes tenus devant toi, Seigneur, au nom de celui qui est assis à ta droite, à savoir Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. C'est en son nom, c'est par lui, au travers de lui, Seigneur, que nous avons fait monter nos prières vers toi. Et merci pour tout, pour cette grâce, cette assurance de savoir que tu es toujours là lorsque nous avons besoin de toi. Tu es toujours là, Seigneur, pour non seulement accueillir l'expression, les sentiments de nos cœurs, mais aussi nous accueillir nous-mêmes en ta présence. Merci pour tout. Nous voulons maintenant, Seigneur, demeurer dans ta présence et te tendre une oreille attentive afin que tu nous parles. Parle-nous, Seigneur, dépose sur nos cœurs ce qui vient de ton cœur, afin que tout cela puisse embraser notre vie, puisse nous transformer, Seigneur, à ton image et à ta gloire. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons donc revenir à notre thème, savoir être l'argile entre les mains du divin potier. Pour la cinquième fois, nous allons nous tourner vers ce thème ô combien important, ô combien vital, et voir ensemble l'importance, la nécessité de disposer nos vies entre les mains du Seigneur et de tout faire pour que nos vies restent des vies malléables, des vies sensibles, des vies modelables, et afin que le Seigneur puisse donner à nos vies la forme qui lui convient et ainsi faire de chacun de nous un instrument de son choix. Amen. Vous me dites ainsi un souci de son, parce que j'ai l'impression que la qualité n'est pas du tout là. Nous allons lire cette fois-ci dans le premier livre des Rois, au chapitre 16, Rois chapitre 16, à partir du verset 29, et puis 1 Rois chapitre 17, juste le premier verset. Et donc à partir d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment toutes les vérités que nous avons pu examiner en rapport avec ce thème, comment ces vérités sont donc illustrées dans la vie de certains serviteurs du Seigneur, et voir comment nous aussi nous pouvons vivre et expérimenter cela. 1 Rois chapitre 16, à partir du verset 29. Nous sommes donc à l'époque de ce roi maudit, de ce roi idolâtre malfaisant, à savoir Akab. Le verset 29 nous dit, « Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie, qui était donc la capitale du royaume du Nord. Nous sommes à l'époque où, hélas, le royaume d'Israël est divisé en deux. Vous avez le royaume du Nord, qui s'appelle Israël, avec comme capitale la Samarie, et puis vous avez le royaume du Sud, Juda, avec comme capitale Jérusalem. Verset 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla rendre un culte à Baal, et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal, qu'il bâtit à Samarie. Akab fit aussi le poteau d'Akéra, et Akab fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. De son temps, Yael de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondations auprès d'Abiram, son fils aîné. Il en posa les portes auprès de Ségoub, son cadet, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Noun. Chapitre 17, le verset 1er. Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit à Akab, L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Gloire à Dieu. Le dimanche dernier, rappelez-vous, nous avions terminé notre message par deux questions plus qu'importantes, deux questions en rapport et donc avec notre thème. La première question était, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être malléables, d'être modelables et de demeurer entre les mains du divin potier? Ça, c'était la première question. C'est une chose de savoir que ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nos vies soient modelables, soient façonnables, soient des vies malaxables, pétrissables. Ça n'est une autre de savoir comment ces vies peuvent-elles l'être. Voyez-vous? Il y a cette question, eh bien, il n'y a qu'une chose qui peut nous empêcher d'être malléables, d'être modelables entre les mains du Seigneur, c'est le péché quel qu'il soit. Le péché. Mes amis, le péché a des effets néfastes, des effets horribles, nuisibles sur l'être humain. Le péché durcit le cœur. Le péché transforme nos vies en des morceaux de bière. Et dès lors que nos vies deviennent des morceaux de bière, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur puisse faire de ces vies quelque chose pour sa gloire? Le péché rigidifie nos vies, les rend rigides. Il rend nos vies insensibles, ce qui empêche le Seigneur d'accomplir son travail en tant que divin potier. Car rappelez-vous, le Seigneur est à l'œuvre dans nos vies, il est à l'œuvre autour de nous. Le Seigneur voudrait nous utiliser comme des moyens pour accomplir ses propres desseins. Et pour cela, il y a un travail qui doit être fait en amont, c'est-à-dire un travail qui doit être fait en nous. Et ce travail ne peut se faire qu'à certaines conditions, que nous soyons malléables, que nous soyons modelables. Mais malheureusement, le péché, eh bien, durcit nos cœurs. Le péché transforme nos vies en des morceaux de pierre. Alors qu'il transforme nos cœurs, alors qu'il durcit nos cœurs, le péché a aussi des effets sur notre foi. Le péché liquéfie la foi, la transforme. Mes amis, il la fait passer à l'état liquide, la vide de toute sa substance. Nous nous retrouvons avec une coquille vide. Et quand il n'y a plus de foi, eh bien, il n'y a plus possibilité de marcher avec Dieu, d'expérimenter Dieu. Car avec Dieu, eh bien, nous marchons par la foi. Alléluia. C'est donc la foi qui nous permet de rester attachés à Dieu, la foi qui nous permet de marcher. Mais dès lors que cette foi n'a plus de consistance, dès lors qu'elle ressemble à un liquide insalubre, eh bien, il n'y a plus rien à faire. Donc, nous devons nous méfier du péché. Nous devons éloigner le péché de notre vie, car il affecte très sensiblement, très négativement, il corrode l'être humain. Première chose, le péché est la chose la plus terrible qui nous empêche d'être malléables et d'être utilisables entre les mains du Seigneur. La deuxième question était, que faire alors pour demeurer dans la main du divin potier? Voyez-vous? Eh bien, à cette question, nous avions répondu, nous devons mener une vie de sainteté. Nous devons marcher dans la pureté. Nous devons, mes amis, posséder ce corps dans la sainteté. Mener une vie d'obéissance à Dieu. Oh, alléluia. Car ce que Dieu veut, c'est notre sainteté. Soyez saints, nous dit-il, car je suis saint. Et c'est donc une vie de sanctification. Une vie marquée par la crainte de Dieu. Une vie qui demeure attachée à Dieu, une vie, mes amis, qui marche en se reposant entièrement sur le Seigneur. Oui, c'est en marchant de cette manière que nous allons demeurer entre les mains du divin potier. Et étant malaxable, malléable, Dieu peut alors nous travailler et in fine nous utiliser pour relever les défis qui se présente à nous, les défis qu'il y a dans ce monde. Et gloire au Seigneur. Alléluia. David, le roi David, homme selon le cœur de Dieu, qui avait compris l'importance, qui avait compris la nécessité d'avoir une vie modelable, d'avoir une vie qui demeure entre les mains de Dieu, cet homme-là, mes amis, n'a pas hésité à crier à Dieu en disant, « Détourne ta face de mes péchés. » Psaume 51, verset 11 à 13. « Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Alléluia. L'homme de Dieu avait compris cela, qu'il avait besoin d'avoir un cœur pur. Il avait besoin d'avoir un cœur qui demeure entre les mains du Seigneur, afin que par ce cœur, à travers ce cœur, au travers de ce cœur, le Seigneur puisse accomplir son œuvre ici-bas. Alléluia. Et gloire à Dieu. Donc vous voyez, mes amis, il n'y a qu'une seule recette pour avoir à la fois une vie modelable, une vie, malléable, et en même temps une vie qui demeure entre les mains du Seigneur, entre les mains du divin potier. Cette recette, c'est la sanctification. Alléluia. On ne le dira jamais assez, mes amis. Dieu s'attend de chacun de nous que nous marchions dans la sainteté, que nous marchions selon sa parole et rejetions le péché sous toutes ses formes. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes toujours avec moi. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons donc voir comment les différentes vérités que nous avons glanées dans la parole de Dieu, et ce par rapport à ces thèmes, comment ces vérités-là sont illustrées dans la vie du prophète Élie, de cet homme qui a marqué sa génération d'une empreinte indélébile. Comment toutes ces vérités que nous avons pu étudier jusque-là ont été vécues dans la vie de cet homme, Élie, qui nous est présenté comme étant un homme de la même nature que nous, homme sujet aux mêmes infirmités, aux mêmes faiblesses que nous, mais qui cependant a été un outil, a été un vase d'honneur que le Seigneur a utilisé en son temps pour relever tous les défis qui se sont présentés à Israël, pour donner des solutions aux problèmes qui gangrenaient Israël à cette époque-là. Alléluia. Homme de la même nature que nous, il a été conçu, il est né d'une femme comme vous et moi, mais il a su faire la différence en son temps. Il a su faire la différence à son époque. Il a su être une bénédiction dans sa génération. En d'autres mots, nous allons voir comment la vie du prophète Élie a été une illustration vivante de cette vérité sur la nécessité, sur l'importance d'être de l'argile malléable et modelable entre les mains de notre Dieu, afin que celui-ci puisse faire, puisse nous travailler, puisse nous façonner, puisse nous donner la forme, mes amis, qui lui convient afin d'accomplir ses plans bienveillants, afin d'accomplir ses différentes volontés ici-bas. Encore une fois, il n'y a que Dieu qui reste, qui demeure la solution à tous nos problèmes. Alléluia. Quelle que soit la nature du problème, quel que soit le besoin dans lequel se trouve l'humanité, eh bien Dieu reste la solution. Et ce Dieu-là est à la recherche des hommes et des femmes qui soient prêts à lui confier sa vie, qui s'engagent totalement, entièrement vis-à-vis de lui. Des hommes et des femmes qui marchent dans la sainteté, dont la vie est malléable, afin que lui, le divin potier, puisse les façonner et donner à ces vies-là la forme qui lui convient, et ce, en vue de l'accomplissement de ses desseins, de ses diverses volontés ici-bas. Amen. Revenons à notre personnage principal, à savoir le prophète Élie. Élie. De l'hébreu Eliaou, c'est-à-dire Yahweh est mon Dieu, où l'Éternel est mon Dieu, où Adonai est mon Dieu. Cet homme nous est présenté comme étant un Tishbite. Nous l'avons lu, Élie, le Tishbite, et la version grecque ajoute le Tishbite de Tishbé, l'un des habitants de Galate. Cet homme devait être probablement originaire de Tishbé, qui se trouvait en Galate, c'est-à-dire au nord et à l'est du Jourdain. Voilà tout ce que la Bible nous dit à propos de cet homme. De cet homme qui va marquer l'histoire biblique. De cet homme qui monte sur la scène biblique de manière brusque, mais qui va aussi la quitter de manière merveilleuse. Car cet homme ne va pas passer par la mort. Il va être enlevé dans un char de feu. Oh, alléluia! Quel couronnement d'une vie totalement engagée pour la cause du royaume de Dieu. C'est ce qui est réservé à quiconque persévérera jusqu'au bout. Oh, alléluia! En ce jour-là, lorsque la trompette sonnera, eh bien, celui ou celle qui aura persévéré jusqu'au bout, qui aura combattu jusqu'au bout, qui aura demeuré dans la victoire de Golgotha, eh bien, ce jour-là, au son de la trompette, tous ceux-là seront transformés, métamorphosés en un clin d'œil, et tous enlevés pour aller rejoindre le Seigneur, là, sur le nuée. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, Eliyahu, Dieu, Yahweh est mon Dieu. Il porte bien son nom. Dans un environnement marqué par l'idolâtrie, dans un environnement marqué par le rejet de Dieu et de sa parole, eh bien, il s'est trouvé un homme qui portait un nom et dont la vie était vraiment la manifestation, la révélation du nom qu'il portait. Adonai est mon Dieu. Alors qu'Israël claudiquait, Israël ne savait où donner de la tête, alors qu'Israël avait un pied dans le baalisme, dans l'idolâtrie, dans l'occultisme, et en même temps voulait être avec Dieu, avec Adonai, avec Yahweh, lui, il est resté fidèle à Dieu, entièrement consacré à lui, oh alléluia. Il ne s'est pas laissé influencer. En cela, eh bien, sa vie reste un grand enseignement pour chacun de nous. L'entrée en scène de cet homme dans le récit biblique, dans le récit sacré, l'entrée en scène de cet homme dans l'histoire de la révélation biblique, la révélation de Dieu à Israël, mais aussi à l'humanité, eh bien, l'entrée de cet homme-là nous est présentée, nous est relatée de manière très brève, très laconique. Voyez-vous. On nous dit simplement, Élie le Tishbite, l'un des habitants des Galades, dit Akab, le roi qui régnait à l'époque, le roi qui avait entraîné tout le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, dans le rejet de la parole de Dieu, eh bien, il alla vers lui et il dit, l'Éternel, le Seigneur, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, il n'y aura ces années ici, ni rosée, ni pluie, si ce n'est à ma parole. Oh, alléluia. Un homme engagé, un homme fervent, un homme scellé, un homme qui a osé aller à contre-courant, un homme qui va se dresser contre tous ces courants démoniaques qui avaient entraîné Israël sur une pente plus que dangereuse. Il va se tenir, mes amis. Il va aller à contre-courant. Il va interpeller ce roi au risque de sa vie. Il va lui dire ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. En disant, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Voilà ce que je t'annonce. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie. Et l'apôtre Jacques d'ajouter au chapitre 5 de Jacques, verset 16, la deuxième partie, il nous est dit, la prière agissante, la prière énergique
du juste a une plus grande efficacité.
Littéralement, la prière énergique du juste a une grande puissance, a beaucoup de force. Alléluia. Eh bien, et comme pour illustrer l'efficacité de la prière, la puissance de la prière de la part d'un homme qui se tient devant Dieu, eh bien l'auteur, l'apôtre Jacques, se tourne vers Élie. Et que nous dit-il dans le même passage? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, il pria avec ardeur, avec ferveur, pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Puis, il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie. Extraordinaire. Laissez-moi vous dire une chose. Le Dieu d'Élie reste le même encore aujourd'hui. Ce Dieu se révèle comme étant celui qui tient toutes les nations dans sa main. Au-delà des pouvoirs politiques, au-delà des pouvoirs financiers, au-delà de toutes ces puissances, quelles qu'elles soient, il y a le Dieu d'Israël. Il y a le Seigneur Jésus. Il tient l'humanité dans sa main. Mon frère et ma sœur, ne baisse pas tes bras. Continue à lui faire confiance, même si tout autour de toi se dégrade, même si tu as l'impression que tu ne contrôles plus rien. Non, il est encore sur son trône. Soyez confiants, même si les temps dans lesquels nous vivons, comme nous allons le voir, sont des temps difficiles. Même si le temps qui vient sera encore beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui, puisque la Bible le dit, mais une chose est sûre, c'est que sa victoire est toujours d'actualité. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Il s'est tenu devant Dieu avant d'aller se tenir devant Acab. Il a proclamé une parole de la part du Seigneur. Et Dieu a accompli cette parole. Voilà ce dont, mes amis, Dieu est capable de faire dans la vie et à travers la vie de tout celui ou de toute celle qui lui est soumis ou soumise. Celui qui est véritablement de l'argile entre ses mains. Dieu veut accomplir des miracles dans notre génération. Dieu voudrait que nous soyons des gens qui participent à la construction d'une nouvelle société. Dieu veut que nous soyons des artisans, des faiseurs de l'histoire, et non pas des hommes et des femmes qui subissent l'histoire. Élie va écrire les plus belles pages de l'histoire d'Israël. Alléluia. Il n'a pas vécu très longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur son origine. Voyez-vous, on nous dit simplement qu'il était originaire de Tishbé, qu'il était Tishbite. Mes amis, la vie et le ministère d'Élie ont été une réelle bénédiction pour le peuple d'Israël. À un moment charnière de son histoire, Dieu a fait lever un homme pour aller à contre-courant. Alors que la population s'était laissée entraîner vers l'idolâtrie, vers le culte des Baals et des Astartés, Dieu a pu trouver quelqu'un. Il a pu trouver quelqu'un qui l'a préparé, qui l'a modelé, qui l'a façonné. Et ensuite, il a utilisé cet homme pour défier ce roi apostat, ce renégat, pour défier, mes amis, le peuple d'Israël. Mais pour mieux comprendre et mieux apprécier l'impact de la vie de cet homme sur l'histoire d'Israël, l'impact de la vie de cet homme sur sa génération, dans sa génération, il est donc important, il est donc vital que nous puissions examiner ensemble le contexte dans lequel cet homme a vécu, le contexte dans lequel cet homme a paru,
l'environnement dans lequel il a exercé son ministère. Voyez-vous, et voir que cet environnement n'est pas différent de celui d'aujourd'hui.
Alléluia.
Et si Dieu a pu utiliser Élie, il aimerait aussi de trouver de nouveau Élie aujourd'hui. Car lui n'a pas changé.
Oh, alléluia.
Quel a été le contexte? Dans quel monde cet homme a vécu? Contre quel esprit, quelle idéologie, quelle philosophie cet homme s'est-il battu?
Eh bien, nous allons le voir très rapidement.
Le temps d'Élie, l'époque d'Élie. Eh bien, le passage que nous avons lu, au chapitre 16, les versets 29 à 34, décrit ce qu'a été l'époque d'Élie. Ce qu'a été le contexte dans lequel cet homme a paru, cet homme a vécu, cet homme a exercé son ministère. Un simple coup d'œil nous montre que le tableau que nous dépeint l'auteur inspiré, le tableau qu'il nous dépeint d'Israël, était plus que sombre, plus que noir. Nous avons donc là, dans ce passage, une sorte de radioscopie morale ou de radiographie spirituelle. Mais alors, quelle radio? Quel tableau sinistre, horrible! Voyez-vous, d'un peuple qui avait eu la grâce d'expérimenter Dieu, d'avoir reçu la parole, alors que tout autour d'Israël, c'était le paganisme, c'était le polythéisme, la croyance en plusieurs divinités, la croyance en des faux dieux. Israël avait eu la grâce, mes amis, de recevoir la révélation, de connaître qui était et qui est le vrai Dieu. Mais malheureusement, au fil de son histoire, ce peuple va s'égarer, va se fourvoyer dans toutes sortes de choses abominables et horribles. L'auteur nous dépeint donc un tableau d'Israël plus que sombre, un climat spirituel terrible qui régnait en Israël à cette époque-là. Nous l'avons lu, la Samarie, ou plutôt Samarie, qui était la capitale du royaume du Nord, a été et fut le centre du culte de Baal, qui était une idole païenne. Et nous voyons donc là tout un peuple, tout un système fondé sur l'idolâtrie. Nous voyons donc là un peuple avec son roi qui se rebelle contre Dieu, qui rejette Dieu et sa parole. Ce roi malfaisant, ce roi diabolique, ce roi profane, idolâtre, eh bien ce roi-là va faire, et nous l'avons lu, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa perversité surpassa celle de tous ses prédécesseurs, au point de prendre pour épouse la fille d'un roi idolâtre sidonien, l'infâme, la terrible Jézabel. Voilà les quelques indications que la Bible nous donne par rapport au contexte, par rapport à cette époque-là. Mais il y a un autre fait, aussi terrible et horrible, qui décrit le siècle d'Élie, qui nous montre ce qu'était la nature, ce qu'était l'atmosphère, le climat spirituel qui régnait en Israël, l'esprit profane de rébellion qui a caractérisé Israël à cette époque-là. Et nous trouvons la manifestation de cet esprit profane, de la rébellion ouverte vis-à-vis de Dieu, du rejet, du mépris des choses sacrées, nous trouvons ça au verset 34, que nous allons lire. Le verset 34 du chapitre 16 nous dit ceci. De son temps, Yael de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondations auprès d'Abiram, son fils aîné, et il en posa les portes auprès de Ségoub, son cadet, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, fils de Noun. Nous allons nous attarder un tout petit peu sur ce passage qui contribue, mes amis, à nous révéler ce qu'était le climat, l'atmosphère spirituelle à cette époque-là. Rappelez-vous, lorsque le peuple a quitté l'Égypte, après que Dieu l'ait libéré de la servitude des Égyptiens, Dieu avait conduit son peuple. Sa destination, c'était de l'amener jusque dans la terre promise. Et entre le moment où le Seigneur délivre Israël, entre le moment où Moïse, à la tête de ce peuple, se met en marche, et le moment où le peuple va arriver dans la terre de Canaan, dans cette terre que Dieu avait promise à Abraham et à ses enfants, beaucoup de choses vont se passer. Il va y avoir toutes sortes d'obstacles. Mais à chaque fois, le Seigneur va donc détruire ces obstacles. Car lorsque Dieu a décidé de faire quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Alléluia. Quand Dieu décide, quand Dieu veut faire quelque chose, croyez-moi, tout l'enfer peut se dresser contre lui, mais n'arrivera jamais à arrêter Dieu. C'est pourquoi comprenons ces vérités. Avec Dieu, il y a moyen de faire les exploits. Peu importe l'endroit où nous vivons, peu importe le contexte dans lequel nous évoluons, pour Dieu, il n'y a rien qui change. Ce qu'il demande, c'est que nous soyons simplement de l'argile modelable entre ses mains, afin qu'il puisse investir en nous et nous utiliser pour élever des défis. Alors, sur le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu, il y a eu, comme je disais, toutes sortes d'obstacles. Pensez à la traversée du désert, pensez à la mer de Jonque ou la mer Rouge, pensez à certains peuples comme les Amalécites et tout ça. Et puis il y a eu aussi un autre obstacle, c'est Jéricho. Jéricho, nous dit la Bible, barrait le chemin d'Israël. C'était donc un obstacle. Il fallait passer par là avant de pouvoir prendre possession de la terre que Dieu avait donnée à Israël. C'était donc un défi à l'accomplissement des plans de Dieu. Alléluia. Un vrai défi. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez le récit. Le Seigneur va demander à Josué de ne pas s'agiter, de garder son calme, de lui dire quelque part, écoute, sois tranquille, rassure le peuple. J'ai ouvert la mer de Jonque, je vous ai nourri au désert, je vous ai accordé la victoire face aux Amalécites, etc. Je suis le même encore aujourd'hui, alléluia. Voilà ce que vous allez faire. Vous n'allez pas combattre. Voyez, Dieu a toujours sa stratégie. Oh, alléluia. Et quelquefois, la stratégie de Dieu, quelquefois, se révèle à nous comme étant une folle stratégie. Mais faisons-lui confiance. Il leur a dit quoi? Écoutez, sensibilisez les sacrificateurs, ceux qui me servent, qu'ils prennent l'arche, qu'ils fassent simplement le tour de la ville de Jéricho, sans rien faire. Imaginez-vous un peu si Josué s'était retrouvé avec quelques spécialistes en matière de guerre, en matière de défense, et qu'il leur aurait dit, écoutez, nous faisons face à un ennemi, c'est une ville fortifiée, barricadée, mais voilà, notre Dieu nous dit simplement de tourner autour. Mais ce spécialiste aurait pris Josué pour un fou, oui ou non? Mais vous êtes fou. Vous avez déjà eu à combattre, non? Rappelez-vous, dans la vallée, toi Josué, tu avais conduit le peuple à la victoire pendant que Moïse était sur la colline en train d'intercéder. Tu dois faire la même chose. Non, avec Dieu, pour chaque combat, il y a une stratégie. Alléluia. mobiliser les gens, en âge de porter les armes. Et la ville est constituée ainsi, est barricadée, fortifiée, il y a telle porte. Voilà, commencez par envahir cette porte, et ceci et cela. Voilà le conseil qu'il aurait reçu de la part des spécialistes. Mais dans la marche avec Dieu, c'est la stratégie de Dieu qui prime. Oh, alléluia. Moïse et comment Josué leur aurait dit, mais non, ça c'est vous. Mais nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas selon notre intelligence ou selon les différentes stratégies militaires. Mais nous marchons par la foi. Il se trouve que ce Dieu-là nous demande de faire simplement le tour de la ville. Une fois. Et puis après. Et puis deux fois. Et puis la septième fois. Oh, alléluia. Le Seigneur dit à Josué, demandez au sacrificateur de sonner de la trompette. C'est ce qu'ils ont fait. Eh bien, en agissant de cette manière, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va faire couler les murs et les portes de la ville. Alléluia. Sans que Israël ait eu à combattre. Les murs sont tombés. Grâce au Seigneur. La main de Dieu était derrière. Et ils ont obéi simplement. Ils ne pouvaient pas s'imaginer comment Dieu allait agir. Mon frère, ma sœur, contente-toi de ce que Dieu dit. N'essaye pas de torturer l'esprit pour t'imaginer, mais oui, mais comment il va faire? Le comment, celui. Il a mille et une façons d'agir. Oh, alléluia. Ne limitons pas Dieu. Les murailles sont tombées. Les portes de la ville sont tombées. Au son de la trompette ou des trompettes retentissantes de ses sacrificateurs. C'est une victoire extraordinaire. Que fait le peuple? Eh bien, le peuple fait le reste. Suivez-moi bien maintenant. Dieu renverse les murailles. Donc, le peuple est libre d'entrer. C'est ce qu'ils ont fait. Ils vont détruire la ville. Ils vont brûler la ville. Et Dieu va accompagner cette victoire, cette œuvre éclatante, cette œuvre glorieuse. Dieu va, cette œuvre de jugement, cette œuvre glorieuse de jugement, Dieu va accompagner cela de la défense de jamais, jamais reconstruire la ville sous peine de malédiction. Josué 6. Verset 26. Nous dit, en ces temps-là, donc après avoir fait tomber, détruit la ville de Jéricho, ou cité des palmiers, ou ville des palmiers, Josué fit faire ce serment. Maudit soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en assurera les fondations au prix de son fils aîné. Au prix de son cadet, il en posera les portes. Quand les murailles se sont écroulées, le peuple est entré dans la ville. Le peuple l'a brûlée. Et selon la parole de Dieu, vous pouvez enlever ça, selon la parole de Dieu, si l'intérieur de la ville avait été partiellement reconstruite, c'est ce que la Bible nous dit dans Juges 3, 13, où il nous est dit, le roi de Moab, Eglon, bâtit Israël, voilà, réunit en lui les Ammonites, voilà encore une fois, une coalition démoniaque, les Amalécites et les Ammonites, et il s'est mis en marche. Il bâtit Israël, qui fut dépossédé de la ville de Palmiers. Eh bien, la ville de Palmiers, c'est Jéricho. Comme d'ailleurs Josué, chapitre 1, verset 16, nous le dit, ville de Palmiers, c'est Jéricho. Donc nous voyons que la ville, l'intérieur, avait été rebâti. Ce que l'homme avait détruit, voyez-vous, avait été rebâti partiellement. Et à cette époque-là, ben, Israël a été dépossédé. Voilà. Donc, par le roi de Moab. Mais, si la ville a été rebâtie partiellement à l'intérieur, c'est que Dieu avait renversé. C'est que Dieu avait lui-même détruit, n'aurait jamais dû être rétabli. Tout ça pour nous montrer l'esprit de corrosion, l'esprit profane, qui à un moment, à cette époque-là, se manifestait. Le peuple avait brûlé la ville, mais c'est Dieu qui avait renversé les murailles, qui avait détruit les portes. Et il avait fait accompagner cela par cette défense de jamais rebâtir. Mais malheureusement, en ce temps-là, donc au temps d'Élie, l'impiété, c'est-à-dire le mépris de choses sacrées, était si grande, le relâchement moral et l'anarchie spirituelle avaient atteint un tel degré qu'il se trouva un homme, Monsieur Yel, on a lu, assez coupable, assez profane et rebelle pour rebâtir les fondements et les portes de Jéricho au mépris de la parole que le Seigneur avait proclamée. On rejette tout. On va à l'encontre de ce que Dieu avait fait. Mes amis, l'apostasie, le rejet de Dieu, le rejet de sa parole, allait jusque-là. Ce que Dieu avait interdit. Eh bien, à l'époque d'Akab, il a dit, mais quoi, c'est Dieu qui avait dit ça, non, nous allons faire le contraire. Comme pour dire, mais Dieu s'était trompé, qui est-il? Qui est-il pour nous avoir laissé cette instruction? Mais il va le payer très cher, puisqu'il va rebâtir les murailles, les portes, au prix de la mort de ses deux fils, ou de la vie de ses deux fils. Oui, le rejet de Dieu, le mépris de la parole de Dieu allait jusque-là, permettant non seulement des actes contre nature, mais ouvrant la porte à la révolte contre Dieu lui-même. L'anarchie, le blasphème régnait en maître à cette époque-là. D'ailleurs, le prophète, à un moment, va interpeller le peuple en lui disant, au verset, enfin, 1 roi 18, verset 21, il dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ?» 1 roi 18, verset 21. « Si l'Éternel est Dieu, voyez, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés ?» Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Et résultat, le peuple ne lui répondit rien. Voilà. Tout allait en vrille. On essayait en même temps de servir Dieu, et puis en même temps de servir Baal. Voyez-vous, le baalisme, le syncrétisme, le mélange. Vous voyez? Avec tout ceci, mes amis, nous voyons que le peuple était sur une pente plus que dangereuse. Une pente qui le conduisait tout droit vers la ruine et vers la destruction. Voilà donc très brièvement la génération dans laquelle Élie a vécu et exercé son ministère. Et maintenant, une question qu'on peut se poser. Qu'en est-il de notre génération ? Qu'en est-il de notre monde aujourd'hui? Qu'en est-il des temps dans lesquels nous vivons? Eh bien, nous pouvons établir un parallèle entre les deux mondes. Les différents maux qui rongeaient l'époque d'Élie, le péché qui était, hélas, toléré, accepté, eh bien, nous le retrouvons encore aujourd'hui. Le monde, notre monde est plongé dans une mer d'incertitude, dans un océan d'inquiétude et d'iniquité. Sous diverses formes religieuses, non seulement le mal et le péché est toléré, admis, mais le péché ne cesse de faire de progrès un peu partout à travers le monde. même ici chez nous. On admet progressivement, aujourd'hui en tout cas, le relâchement de certaines lois morales et civiles. Dans certains pays aujourd'hui, vous rencontrez une femme, une personne, avec tout l'extérieur d'une femme. Vous ne savez pas si elle est née femme, elle est encore femme ou pas. Il y a des transgenres, des gens qui naissent hommes, et puis à un moment, qui se croient être à la place de Dieu. Tu m'as donné ce corps, qui es-tu? Moi j'estime qu'avec ce que je ressens, je suis une femme. Mes amis, on ne sait plus. La confusion est partout. L'Église aujourd'hui est confrontée à toutes sortes de choses. L'Église de Jésus est devenue la fable des nations. On trouve le péché dans l'Église. J'ai fait, rappelez-vous, toute cette série d'enseignements sur l'Église de Jésus, Bethel ou Bethaven. Tant de défis qui se présentent en nous aujourd'hui, qui nous montrent que nous vivons et que nous faisons face au même courant idéologique, au même courant philosophique, au même courant religieux qu'à l'époque d'Élie. Alors que faire? Dans un monde où on donne licence au mal, dans un monde où on encourage le péché, où il est interdit d'interdire désormais. Ceux qui osent dénoncer le péché sont taxés d'intolérants, sont taxés de gens bornés, de gens obtus. Oh oui, mais il faut vivre son temps. Oh, nous sommes au XXIe siècle. Voyez-vous, on n'est plus au Moyen-Âge. Ces genres de discours sont à bannir, car ils sont dangereux. Voyez-vous, ceux qui osent rester dans la parole de Dieu sont de plus en plus marginalisés. Mes amis, les temps d'Élie sont tout à fait pareils aux temps dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Regardez autour de nous tout ce qui se passe, l'apostasie, les gens qui rejettent Dieu, des gens qui étaient autrefois avec le Seigneur, mais aujourd'hui, eh bien, ils ont tourné le dos à la grâce. Aujourd'hui, ils sont en train de courir après des saints, après des anges, après toutes sortes de prophètes. Les temps sont mauvais. Soyons-en conscients. Oh, alléluia. Que faire, alors, dans ce contexte de décadence spirituelle? Que faire dans ce contexte de déchéance morale? Que faire dans ce contexte de délitement de nos valeurs chrétiennes? Eh bien, comme à l'époque d'Élie, Dieu est à la recherche des hommes et des femmes, à travers lesquels il va agir pour arrêter cette marée boueuse qui détruit tout sur son passage. Rappelez-vous, il y a quelque temps, d'ici à quelques semaines, Kinshasa a été frappé par des pluies diluviennes qui ont entraîné la mort. On a parlé presque de 200 personnes. Des pluies qui ont détruit des maisons. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent plus où dormir, qui sont hébergés dans des familles, etc. C'était des dégâts énormes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les dégâts moraux, les destructions morales sont encore beaucoup plus grandes dans cette ville que les destructions auxquelles on a assisté à la suite de ces pluies diluviennes. Oui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient de l'argile entre ses mains, malléables, qu'il va préparer pour les amener à marcher à contre-courant. Oh, alléluia! Des personnes dont la vie lui est entièrement soumise, des personnes dans lesquelles il va investir et s'investir lui-même. Voilà pourquoi Dieu crie encore aujourd'hui, comme à l'époque d'Ézéchiel, « Je cherche un homme qui se tiennent sur la brèche devant moi. » Voyez-vous, je cherche un homme, je cherche une femme qui se tienne à la brèche, sur la brèche devant moi. Et à l'époque, il a cherché et il a trouvé. Cet homme, c'était Élie le Tishbite. Dieu ne l'a pas trouvé parmi le clergé à Jérusalem, parmi les sacrificateurs, parmi les chefs de tribu. Le Seigneur a fait le tour de la terre d'Israël. Il a traversé le Jourdain. Il est allé dans un petit village, Tishbé. Et là, il a trouvé un homme. Où que tu sois, si tu es dans la volonté de Dieu, si tu restes ferme, si tu demeures dans sa présence, Dieu va te trouver. Tu n'as pas besoin de te créer des spots pour essayer de te mettre sous l'éclairage par toi-même, afin qu'on te voie. Là, c'est le diable qui va te voir. Reste là où tu es. Tu peux être dans un village perdu quelque part en Côte d'Ivoire, perdu quelque part en Ituri, mes amis. Mais si tu es fidèle, si tu peux t'exprimer comme Élie, le Dieu devant qui je me tiens, si tu te tiens devant sa présence, si ta vie est vécue dans sa présence, Dieu va te façonner, Dieu va te préparer, il peut te faire partir de ton village pour t'amener à Kinshasa afin que tu amènes le réveil. Gloire à Dieu. Il a fait d'Élie, et nous allons terminer, un outil de choix qu'il va utiliser pour arrêter, mes amis, toutes ces destructions morales et spirituelles. Il va utiliser Élie pour aller défier ce roi renégat, apostat, diabolique. Il va utiliser le Tishbite, l'homme qui venait de loin, de l'intérieur. Voyez-vous, pour aller interpeller le peuple de Dieu. Et cet homme va être un outil par lequel le Seigneur va se révéler. Il va manifester sa gloire. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Voilà comment, mes amis, nous pouvons être des hommes et des femmes dont Dieu va se servir. Mais pour cela, prenons à demeurer dans sa présence comme Élie. Demeurer dans sa présence, tout faire en sa présence. Oh, alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons prier, nous voulons demander au Seigneur de nous aider à être des outils entre ses mains. Que nos vies soient malléables par une vie de sanctification, que nous demeurions dans ses mains par une vie de total engagement, de totale consécration à lui. Alors, là, en sa présence, il va nous façonner, il va nous modeler et faire de nous des outils pour la manifestation de sa gloire, où que nous soyons. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous vivons des temps difficiles, des temps où nous assistons au Dieu, à l'inversion des valeurs, au délitement de nos valeurs au Dieu, des temps de décadence morale et spirituelle. L'Église aujourd'hui passe par des moments difficiles. Dans la plupart des cas, les assemblées ne sont plus la lumière du monde, ni le sel de la terre. Les églises sont devenues, Seigneur, des lieux de malédiction, des lieux où l'homme se met en évidence. La chair est devenue une sorte de piédestal sur lequel les gens montent pour être vus, contemplés, admirés, loués. Ô Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous, Seigneur, d'apprendre à demeurer en ta présence. Car c'est dans ta présence que tu nous façonnes. C'est dans ta présence que tu nous modèles. Seigneur, que tu fais de nous des vases, des instruments pour la manifestation de ta gloire ici-bas. Merci pour tout.